VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Crise au Mali, les États-Unis condamnent avec toute l'énergie possible l'attaque d'hier contre un convoi de la mission onusienne dans le pays qui a coûté la vie à 6 Burkinabés. Plus de détails sur cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
6 soldats de la MINUSMA tués, 5 autres blessés, 2 véhicules détruits, c'est le bilan de l'attaque du convoi d'approvisionnement terrestre qui a quitté Tombouctou ce jeudi 2 juillet 2015 pour Gundam. Le convoi a été attaqué à quelques 45 km de Tombouctou. Le patron de la MINUSMA, le Tunisien Mongi Hamdi, condamne cette nouvelle attaque qu'il qualifie de terroriste contre les casques bleus. Pour lui, les responsables de ces crimes ignobles doivent être identifiés et traduits en justice dans les meilleurs délais. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a aussi condamné ces crimes. Rappelons qu'au mois de mai dernier, 9 soldats maliens ont été tués sur le même tronçon par des bandits armés avec des dégâts matériels importants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président français François Hollande est aujourd'hui à Luanda en Angola, deuxième étape de sa tournée africaine après le Bénin. À son programme, l'ouverture d'un forum économique franco-angolais où des contrats de montant global d'un milliard de dollars devraient être signés, selon l'AFP. Après l'Angola, François Hollande se rendra ce soir au Cameroun, dernière étape de sa tournée, où il aura des consultations avec son homologue camerounais Paul Biya sur la lutte contre le groupe nigérian Boko Haram. Pour un coup de projecteur sur les activités du président français pendant son séjour jeudi au Bénin, rejoignons notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Séance de décoration, tête à tête avec les présidents des institutions de la République, entrevue avec le président béninois et allocution. La toute première viendra de Boni Yayi, qui remerciera son hôte de l'honneur qu'il lui fait en faisant escale à Cotonou. Boni Yayi ne manquera pas de solliciter expressément l'accompagnement de la France dans la mise en place de la force africaine pour le maintien de la paix. François Hollande ne se montrera pas sourd à ses demandes. Il assurera son homologue non seulement de soutien franc de son pays à toute initiative visant à maintenir la paix sur le continent, mais aussi et surtout annoncera sa volonté d'aider le Bénin à résoudre ses problèmes énergétiques. 20 milliards seront aussi injectés par la France dans le développement de deux villes béninoises, à savoir Cotonou et Parakou. Après la partie protocolaire, le président français et sa suite ont visité le Centre national du traitement du paludisme, où des recherches sont en cours pour un éventuel vaccin contre la maladie et la Blue Zone installée par le groupe Bolloré au quartier Zongo à Cotonou, destinée à recevoir des dispositifs photovoltaïques pour la production de près de 1000 MW d'énergie électrique. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les opposants au président Denis Sassou Nguesso conditionnent leur participation au dialogue national à la mise en place d'une commission paritaire d'organisation de ces assises, différente de celle désignée mercredi, qui ne comprend selon eux que des cadres du parti au pouvoir. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Ngusu.
Dans une déclaration lue par Jean-Gustave Ntondo du Conseil national des républicains du pasteur Ntomi, les plateformes politiques de l'opposition, les membres de la société civile et quelques syndicats ont demandé au président Denis Sassou Nguesso de revoir le processus d'organisation du dialogue national.
Les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel suggèrent à son Excellence Monsieur le Président de la République de prendre des textes rectificatifs pour permettre la réussite de ce dialogue tant attendu par le peuple congolais. Ce n'est qu'à ces conditions que les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel pourraient participer à un tel dialogue. Le dialogue étant une vertu sociale qui facilitera la réconciliation nationale.
Moussa Ela, un autre opposant, a exigé la parité dans l'organisation de ce dialogue.
Ça ne nous satisfait pas. Parce que nous avons voulu un dialogue inclus, c'est vrai, un dialogue qui devait porter uniquement sur la gouvernance électorale. Mais en fait, le président nous présente un dialogue avec un ordre du jour déjà préconçu, alors qu'on devrait mettre en place une commission, comme il a annoncé, une commission qui devait organiser ce dialogue de façon paritaire, organisée par toutes les parties. Mais de surcroît, le président vient de publier certains décrets. En fait, pour nous, nous pensons que ce sont des décrets qui sont au mépris pour la démocratie.
Paul-Marie Mpouélé, le coordonnateur du FROCAD, la principale plateforme politique du pays, si leurs conditions n'étaient pas satisfaites, il n'irait pas à ce dialogue.
Si ces conditions-là ne sont pas réunies, ça veut dire que le président de la République ne veut pas, tel qu'il l'a démontré par les décrets qu'il venait de signer, il ne veut pas qu'il y ait une partie, mais peut-être la plus grande partie de la population congolaise qui ne participe à ce dialogue, qui n'aura finalement plus le sens de dialogue, mais qui sera un monologue, parce que ça sera des retrouvailles des cas membres du PCT et de leurs affidés.
En attendant, la commission d'organisation nommée mercredi par le président Denis Sassou Nguesso devra rapidement se mettre au travail. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise burundaise, les États-Unis gèlent une partie de leur aide sécuritaire au Burundi alors que l'ONU dénie toute crédibilité au scrutin législatif et communal de lundi dans le pays dans son rapport sur ses élections. Jean-Roger Bion.
Le scrutin qui a été boycotté par l'opposition s'est tenu au milieu d'une crise politique tendue et dans un climat de peur et d'intimidation généralisé dans certaines parties du pays, souligne le document produit par les observateurs des Nations Unies. La mission d'observation déployée à partir du 1er janvier dernier indique avoir observé des restrictions à la liberté de la presse et des violations des droits de l'homme et d'autres libertés fondamentales. Selon le rapport de 9 pages, seul le parti au pouvoir et ses alliés ont été en mesure de mener campagne dans l'ensemble du pays, les partis d'opposition étant beaucoup moins visibles. La mission conclut donc que l'environnement n'était pas propice à la tenue d'un scrutin libre, crédible et fédérateur. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pris note de ses conclusions. D'après le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, quant au Conseil de sécurité, il a tenu jeudi des consultations à huis clos sur la crise burundaise.
Les leaders de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois lundi à Dar es Salaam de dénouer la crise au Burundi. Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, les autorités annoncent des mesures fortes pour assurer la sécurité des touristes et des Tunisiens après l'attaque de la station balnéaire de Sousse par un djihadiste qui a fait 38 morts vendredi dernier. Les autorités ont arrêté 8 suspects et déployé la police et l'armée dans les zones à risque. Claire Morin-Gibault a joint la journaliste tunisienne Nazira Redjiba pour plus de précisions.
On annonce d'une façon tardive ce plan Vigipirate copié, en soi-disant, sur le plan Vigipirate français. C'est pas très clair. On en voit que les manifestations spectaculaires.
Quel serait le bon moyen de lutter contre le terrorisme en Tunisie aujourd'hui?
Ça s'articule sur plusieurs étapes. Le court terme, c'est mettre les gens en confiance. Les gens sont souvent un peu inquiets et déçus quand ils voient des incompétences gérer le pays. Alors on se demande quelle sera la possibilité pour un gouvernement aussi faible pour assurer le... Je crois qu'un remaniement est nécessaire. Le moyen terme, c'est, et j'ai appelé à ça depuis 2012, c'est organiser une grande conférence nationale sur le terrorisme où toutes les forces de la Tunisie se réuniraient avec des experts des pays qui ont eu ces expériences, tels que l'Algérie, la France, même les États-Unis, qu'on décortique un peu le terrorisme aussi, qu'on arrête les responsabilités. Le terrorisme a eu des protections locales. Depuis les élections du 23 octobre 2011 et l'avènement de Nahda, elles ont été un peu trop indulgentes avec les salafistes et avec les intégristes et avec les islamistes radicaux.
La journaliste tunisienne Nazira Redjiba. En Grèce, plus que deux jours avant le référendum de dimanche sur les conditions de remboursement de la dette nationale, le gouvernement appelle à voter non lors du scrutin, mais le tout dernier sondage de l'électorat montre que les Grecs sont pratiquement divisés à égalité entre le oui et le non. Nicolas Pinault.
Les créanciers d'Athènes ont mis un peu plus la pression en publiant jeudi des chiffres épouvantables sur les finances publiques de ce pays. Le Fonds monétaire international a fortement réduit ses prévisions de croissance pour la Grèce, passant de plus 2,5% à 0%. Pessimiste, le FMI prédit que la Grèce aurait besoin d'une nouvelle aide européenne de 36 milliards d'euros dans les 3 ans, même si elle acceptait dimanche le plan des créanciers. Pour le gouvernement grec du Premier ministre Alexis Tsipras, qui n'a aucune intention de sortir de la zone euro, un non servirait surtout à être mieux armé pour la poursuite des négociations avec les créanciers. Difficile de connaître l'issue du vote de ce dimanche, mais une chose est sûre, les Grecs sont fatigués du contrôle des capitaux. Ils ne peuvent retirer que 60 euros par jour aux distributeurs automatiques et un début de pénurie de billets de 20 euros a été constaté, ainsi qu'un ralentissement du commerce.
Et pour terminer, toujours pas de percée dans les pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne en Autriche, qui vont bientôt entrer dans leur deuxième semaine. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.